Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé, en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Soyez tous les bienvenus dans l'Instant M. On est ensemble jusqu'à
10h. C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Une seule chaîne de télé en exclusivité pour la première interview du président de la République depuis l'Élysée. Depuis l'ORTF, ça n'était jamais arrivé. TF1 a décroché ce qu'Emmanuel Macron aux autres a refusé. Sa pensée complexe ne se prétend pas, selon son entourage, aux questions-réponses des journalistes. Mais hier soir, s'est-il une seconde prêté aux questions-réponses des journalistes qui lui faisaient face?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Gilles Boulot.
Bonjour Sonia.
Le 20h semaine de TF1, c'est vous à vos côtés dans le bureau d'angle de l'Élysée, Anne-Claire Coudray, votre consoeur du week-end, et David Pujadas pour votre chaîne info LCI. Les chiffres viennent de tomber, vous avez été regardé par 9,5 millions de personnes, soit 36% des Français devant leur téléviseur, comme dirait Macron, parce qu'il utilise le mot « vous » devant votre téléviseur. Lui qui passe son temps à parler aux gens derrière leur smartphone ou leur écran via Facebook et Instagram, eh bien non, hier soir, il parlait aux gens devant leur téléviseur. On y vient dans un instant, Gilles Boulot, notre chroniqueuse Iris Bray est avec nous ce matin. Bonjour Iris.
Bonjour Sonia.
Alors, suite à l'affaire Weinstein, on va dire, Weinstein.
Les deux se disent.
Ce week-end sur Twitter a surgi le hashtag balance ton porc. Sandra Muller, journaliste pour la lettre de l'audiovisuel, donne le coup d'envoi avec ces mots, je cite, tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit, prononcé par un ancien patron de chaîne où elle a travaillé et dont elle cite le nom.
Oui, alors le hashtag balance ton porc fait suite à celui que les anglo-saxons ont créé, My Harvey Weinstein. Alors d'autres hashtags made in France ne peut pas porter le nom d'un célèbre producteur ou réalisateur, car aucun homme de pouvoir dans l'industrie du 7e art n'est tombé. Notre hashtag aurait aussi pu s'appeler hashtag MyDSK, puisque beaucoup font le parallèle entre les deux affaires, mais on a choisi la famille des porcins, une manière de réduire les hommes agresseurs à un tas de chair et de pulsions déshumanisées, exactement comme ils considèrent les femmes qu'ils agressent.
Voilà, alors est-ce que l'incitation à balancer, à balancer des noms, a marché?
Non. C'est pas une chasse à l'homme qui s'est enclenchée, mais un besoin vital de parler de ces violences, allant de la remarque sexiste au viol. Les personnalités qui tweetent viennent souvent des médias. Elles pourraient balancer des noms, mais elles ne le font pas. Anne Denet sur RMC, Nora Bouazouni chez Slate, Julia Molcou de C8 ou Victoire Touillon qui explique, ce directeur de rédaction à la télévision, connu par tous, toutes comme un dangereux obsédé sexuel qui nous déshabille du regard, commente nos tenues, nous invite à déjeuner, je venais d'arriver, j'avais 21 ans. Mais aussi deux voix actuelles chez France Inter, celle de Julia Foyce qui écrit « Un raid chef, grande radio, petit couloir, m'attrapant par la gorge, un jour je vais te baiser, que tu le veuilles ou non » et le tweet de Valeria Emanuele « Grande radio, un grand chef qui, quelques années avant, avait tenté de me violer, me dit « J'ai pourtant toujours été sympa avec toi ».
Alors les réactions sont vives, les tweetos insultent de manière avec une férocité totale, les femmes qui parlent sans dénoncer.
Oui, ces femmes ne nomment pas, d'abord pour se protéger, mais également parce que, selon moi, ce n'est pas à elles de le faire. C'est un appel aux journalistes à s'emparer du sujet, à mener des enquêtes et à révéler s'ils peuvent étayer, prouver leurs propos, l'identité de ceux qui traitent ainsi les femmes.
Voilà, alors quelques hommes n'ont pas pu s'empêcher de répliquer avec le hashtag « balance ta truie ».
Alors le jour où un hashtag
on est dans la surenchère totale.
Mais ça dit quelque chose, parce qu'en fait le jour où un hashtag avec le nom d'une femme s'imposera à la place d'un Harvey Weinstein, ça signifiera que les hommes et les femmes seront à égalité dans le monde du travail. Car pour qu'il y ait abus de pouvoir, il faut déjà qu'il y ait pouvoir. Cinéma aux États-Unis, industrie des médias chez nous, c'est loin d'être le cas.
Voilà, merci Iris. Mon regard, moi je le précise, diffère quelque peu de celui d'Iris. Tant mieux, à mon sens, tant mieux que cet outil ait été jusqu'à présent utilisé par des gens responsables qui se sont refusés à nommer, parce que c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle la diffamation, et voire même, puisqu'on est en place publique, à la dénonciation calomnieuse qui est punie par la loi. Or, tant qu'un homme n'est pas condamné par la justice, il est innocent. Il me semble que les termes de ce hashtag sont graves et pas suffisamment remis en question. Il pourrait l'être. Balance, c'est un appel à la délation. Et puis ton porc, c'est quoi un porc dans le code pénal? Est-ce que c'est un gros dragueur? travailleur? Est-ce que c'est un harceleur? Est-ce que c'est un agresseur? Est-ce que c'est un violeur? Bref, terrible confusion. Et d'ailleurs, on voit que des témoignages de nature très, 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 très différente viennent s'entremêler, se croiser, etc., etc. Voilà, maintenant, ça dit aussi l'immense besoin de parler, de témoigner et de croiser les expériences. Hier soir, on vous a regardé Gilles Boulot sur TF1. Il y avait un très court sujet dans le minuscule JT qui a précédé votre interview présidentielle. Très court sujet, aucune remise en question, enfin de ce dont je viens de parler. Est-ce que pour vous, c'est le rôle des journalistes de révéler ce type d'affaires, Gilles Boulot ?
L'affaire Weinstein ou la déclaration de cette femme avec le hashtag sur le port ?
Est-ce que c'est
moi, j'ai un souvenir tragicomique. J'ai longtemps travaillé en Grande-Bretagne. J'étais correspondant là-bas et le journal le plus
aux
puissant.
Aux États-Unis également.
Et aux États-Unis. Et le journal le plus puissant, vous connaissez tous, s'appelle le Sun, est parti en croisade, aussi pour des raisons commerciales, contre les pédophiles. Et donc, ils ont eu accès aux fichiers des pédophiles inscrits à Scotland Yard vivant en liberté en Grande-Bretagne. Et donc, présentant potentiellement un danger. Mais comme il y a des crétins partout, des gens ayant lu, y avait le nom, la photo et l'adresse.
Tout est paru dans le journal.
Tout est paru en quadruple page. Il y avait un abécédaire de A à Z. Et des gens dans une paisible bourgade anglaise sont allés brûler la maison d'un pédophile. Il s'était juste trompé. Il était juste pédiatre et pas pédophile. Donc le name and shame, comme on dit en anglais, ou en français, je ne sais pas comment on dit, la dénonciation. Il faut juste faire attention à la... Attention à viser les bonnes cibles et à respecter les règles de droit. Voilà, vous mainteniez tout à l'heure la distance entre le dragueur lourd et le violeur patenté. Voilà, il y a sans doute une frontière.
Oui, et puis par ailleurs, pour que la justice enquête, il faut qu'il y ait une plainte.
Et pour que
la presse publie, pour que les médias publient, il faut qu'il y ait une plainte aussi. Il faut qu'il y ait des faits.
C'est la justice dans un pays. En même temps, on sent que ce qui se passe là soulève un couvercle qui était mis depuis des années d'abus de pouvoir ou d'inégalité dans les rapports, dans le travail. Ça dit quelque chose malgré tout, avec toute la, même si c'est un peu gauche, même si c'est maladroit, même si ça peut poser des problèmes. Wow, ça dit quand même quelque chose.
Ça dit quelque chose. Et puis on va peut-être rappeler un chiffre, Iris. 95% des femmes qui dénoncent les harcèlements sexuels dont elles sont victimes dans le milieu du travail perdent leur emploi. Voilà, 95% des femmes qui dénoncent perdent leur emploi. Comme quoi, vraiment, il y a besoin de trouver des canaux pour parler.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Alors, Gilles Boulot, revenons sur cette interview présidentielle hier soir à l'Élysée aux côtés d'Anne-Claire Coudray et de David Pujadas. Si vous deviez évaluer votre degré de frustration sur une échelle de 1 à 10, vous lui donneriez quelle note ce matin ?
Ma frustration, je lui mettrais 3 sur 10. Il y a quelques années, j'aurais mis 8 sur 10. Au début, lorsque j'interviewais des hommes politiques ou un président de la République, j'avais ma liste de commissions, mes 27 questions, la 27 bis, la 27 terre, etc., etc. Je dis, si je pose pas toutes ces questions, fruit d'un long mûrissement à 2 ou à 3, selon qu'on a conçu l'interview à 2 ou à 3 ou seul, je me disais, c'est pas possible, on va me reprocher de pas avoir parlé des APL, du glyphosate, de l'Iran, voilà. Et alors maintenant, ma frustration, elle n'est pas du tout là. Il y a des questions que nous avions prévu de poser, qu'on avait rédigées à la virgule près, au mot près, qui sont passées à la trappe. Enfin, dès les 3 premières minutes de l'interview, je m'en doutais. Donc ça, c'est pas ça.
À partir de quand, dans l'oreillette, on vous a dit que l'interview allait très nettement déborder parce que voilà.
Mais j'ai pas besoin d'oreillette. Au bout de 4 minutes, j'ai compris.
Ça aurait été le naufrage si vous aviez tenu le temps imparti, c'est-à-dire si vous aviez lancé le film du dimanche à 21h. Il aurait manqué tellement de sujets et tellement de questions.
Mais finalement, non, d'abord, j'ai pas eu besoin d'oreillette pour m'apercevoir que, pour comprendre, mais je le savais, parce qu'avec Anne-Claire, on a souvent interviewé le candidat Macron. Donc c'est quelqu'un qui est dans la pédagogie. Il va pas vous dire, je vais baisser les APL de 5 euros. Il va vous le dire, vous le rappeler, et après, il va partir dans des cercles concentriques d'explications économiques, de philosophie politique, de positionnement de ce qu'il est par rapport à ça. Et voilà, c'est louable, c'est sa démarche, je ne conteste pas ça. Donc au bout de 5 minutes, je savais bien que nous aurions du mal à faire rentrer 1,5 litre dans une bouteille d'un litre. Voilà, c'est pas du tout ça ma frustration. Si j'ai 3 sur 20 et donc une petite frustration, c'est que dans l'expression du président, dans l'expression au sens grammatical, lexical, ça laisse, mais c'est sans doute volontaire, assez peu d'interstice à la relance, à l'interruption, etc. Donc il y a des hommes politiques, c'est pas un secret, qui se laissent facilement interrompre. François Hollande se laissait facilement interrompre. D'autres, c'est un fleuve torrentueux, difficile à interrompre. Alors, Emmanuel Macron, qui est loin d'être le seul. Vous faites des dénonciations, je vais vous en dénoncer.
Allez-y,
c'est à la fois pour certains une manière de contourner l'obstacle, c'est-à-dire que tant que je tiens le crachoir, on ne m'interrompra pas. Et d'autres, je classerai M. Macron dans cette catégorie-là, j'ai une pensée qui est touffue et qui a...
Complexe, s'il vous plaît.
Qui a des points, des pleins, des déliés, et je veux aller au bout de ça. Donc, ce n'est pas une démarche d'évitement. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une émission de 2h30. Là, pour le coup, on aurait parlé du glyphosate, on aurait parlé des travailleurs détachés, des GAFA, du taux d'imposition en Irlande. Il n'y aurait pas eu d'évitement de sa part. Mais il y aurait eu à chaque fois...
On écoute ce que ça donnait quand même hier
soir.
Allez-y.
Il nous reste beaucoup de sujets à adopter. Si on pouvait faire quelques réponses plus courtes sur certains arbitrages, deux questions précises à vous poser. Alors,
David,
on va avancer. Il y a beaucoup de sujets. Les Français attendent beaucoup de réponses.
Est-ce que vous me permettez de vous interrompre juste un instant?
Ah oui, mais on va encore prendre beaucoup de retard.
Non,
vous voulez parler de la participation?
Oui, parce que vous m'avez lancé
rapidement,
sur ce point.
Peut-être.
Et donc, vous le voyez.
Il faut vraiment qu'on aborde la question du chômage.
Cette transformation,
vous y arrivez.
Elle ne tient,
tout seul,
et elle ne peut se faire que lorsqu'on a aussi une économie qui va de l'avant.
Vous y arrivez tout seul, effectivement, souligne Anne-Claire Coudray. Donc on voit que vous tentez désespérément les uns les autres de l'interrompre, que vous multipliez les supplications faites un tout petit peu plus court. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui ne scie pas, qui ne tourne pas la tête, qui ne s'interrompt pas, qui ne change pas un mot, qui est dans un tunnel, comme on dit dans notre jargon, et qui ne bronche pas à ce que vous lui envoyez face à lui. Ça n'est plus un face-à-face, finalement.
Si, moi je pense que... Enfin, j'ai pas beaucoup de regrets, de questions ou d'interpellations que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas faites.
Ah bon ?
Bah, quand il me dit, oui, avec les mesures, nous avons dit au préfet, je lui dis, bah, vous l'avez viré, vous l'avez puni. Quand il dit, oui, mais alors là, voilà, je lui dis, mais non, mais j'ai posé les questions parfois sous le coup de l'improvisation, comme j'avais imaginé que je les poserais. Quand je lui dis, il prend, quand le président utilise des arguments pour dire, voilà, on peut tout dire quand on est président, on n'a pas à faire attention à son vocabulaire, contrairement à un citoyen lambda. Ben, je lui dis, mais est-ce qu'on peut vraiment parler comme Michel Audiard? Voilà, ben non, donc il n'y a pas de problème.
Mais en même temps, vous n'avez pas vu un homme d'État, un homme politique qui marque son autorité, qui met en scène son pouvoir.
Si, mais où étions-nous?
Mais
nous
justement,
étions dans, nous étions
où
dans
étiez-vous
son bureau. Alors, où on fait
mais
l'interview?
Mais où étiez-vous? C'était vraiment la question, vous étiez dans son bureau, mais où étiez-vous tous les trois face à lui?
Nous étions dans le bureau du chef de l'État, qui se trouvait par la grâce de la Ve République, le président, ou plutôt le chef de l'État d'une démocratie, le plus puissant. Bien plus que Mme Merkel, qui n'est que chancelière, bien plus que Barack Obama hier, ou Donald Trump aujourd'hui, qui a un congrès extrêmement solide. L'homme d'État le plus puissant depuis la réforme de 1962 de la Constitution en France, c'est le président de la République, François,
qui vous reçoit. Ça n'empêche pas de l'interviewer, on est bien ai-je d'accord.
Ai-je renoncé à l'interviewer?
Bah, c'est une vraie question.
Auriez-vous fait mieux, ma chère Sonia?
Moi, je pas du tout. Ça, alors là, je pense que j'en aurais été bien alors, incapable. Regarde. Je vous fais écouter sa conclusion, parce que évidemment, il sait très bien quel mot il utilise.
Ce fut pour moi un honneur et un plaisir de pouvoir échanger avec vous et, ce faisant, par votre truchement, m'exprimer devant nos concitoyens.
Le truchement, c'est l'intermédiaire. Est-ce que les journalistes politiques sont devenus de simples intermédiaires?
D'abord, je ne suis pas journaliste politique, je suis journaliste,
d'accord.
Point. Je ne suis pas journaliste politique, j'interview aussi des artistes et des sportifs. Et je ne suis pas, je n'ai jamais été, en 30 ans de métier, le faire-valoir ou le hausse-mioche ou le désingueur d'un homme politique. Je ne suis pas greffier. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas procureur, je suis journaliste. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, oui, il est difficile d'interviewer le président de la République aujourd'hui, demain, hier et avant-hier. Les questions que vous posez sont très pertinentes, elles auraient pu être posées du temps de Nicolas Sarkozy, de Giscard, de Mitterrand,
etc. Qui faisait très différemment, parce que Nicolas Sarkozy pouvait être très agressif avec ses interlocuteurs.
Bien sûr, il avait
Macron ne l'est jamais,
voilà.
Et en même temps, on a l'impression qu'il les écrase.
Et convenez, Sonia, qu'à chaque fois, vous parliez de frustration, et j'entends ce terme, il y a une frustration. Pour avoir, moi, interviewé à plusieurs reprises quelqu'un qui était structuré très différemment, qui était François Hollande, vous ressortiez, pour des raisons diamétralement opposées, frustré en disant ça manque un peu de substance, ou ça manque d'une aspérité, ça manque de quelque chose. Or, François Hollande, vous pouviez l'interrompre assez facilement, ce qui est moins facile avec Emmanuel Macron. Non, je ne suis pas frustré, je crois surtout.
Mais est-ce que
ça
a été une démonstration de force? Est-ce qu'on a vu quelqu'un écraser les journalistes? Quelqu'un qui, en plus, a théorisé de plus en plus, et son entourage le fait avec, a théorisé le fait qu'on en a de moins en moins besoin des journalistes, qu'on s'adresse.
C'est ça que le président de la République théorise ça, c'est pas mon problème. Et, avec Anne-Claire, avec David, on a fait le job. Très bien, on a fait très bien le job, parce que je crois qu'en aplomb de tout ça, il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs, il y a des électeurs qui sont extrêmement intelligents. Ils ont bien compris que si un homme politique se laisse ou pas interrompre, qu'il a son regard
ça
ou
en
pas,
dit très long.
Croit, ça en dit très long ça sur son positionnement. Les gens sont extrêmement intelligents. Et donc, on a fait le job, on a posé sur les, je vais vous dire un secret, j'ai ma petite bite dans mon petit sac, on avait 32 questions et des relances. Bah, on en a posé 28. Et donc, le scoop, on n'a pas posé de questions sur les GAFA, sur les travailleurs détachés, sur les allocs familiales, je crois qu'on n'a pas
sur
eu
le glyphosate.
Et sur le glyphosate. Voilà, le reste.
Alors, votre première question, revenons justement sur les premiers sujets que vous avez abordés, celui du style, celui des mots, celui du vocabulaire, celui de la forme.
J'ai pris la décision de ne pas avoir une présidence bavarde, de ne pas parler tout le temps parce qu'il faut que la parole présidentielle garde de la solennité.
Voilà, le style, la forme, les mots. Presque 17 minutes là-dessus. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde à passer 17 minutes là-dessus quand on ne peut pas parler des GAFA, quand on ne peut pas parler des travailleurs détachés, quand on ne peut pas parler du glyphosate? Le glyphosate, c'est dans la vie des gens tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas là l'obsession des journalistes politiques sur la forme, les mots, le style, la communication que Macron est le premier à dénoncer et qui finalement a très peu d'incidence sur notre vie quotidienne?
Je suis assez partagé parce que je pense que le fait que 9,5 millions de personnes aient regardé ça veut dire quoi? Veut dire...
Peut-être qu'ils en attendaient autre chose.
Veut dire à mon avis, mais qui est donc Emmanuel Macron qui n'est plus candidat mais qui est président et que nous n'avons pas du tout entendu? Sauf dans des visites d'usines ou dans des journaux étrangers, nous n'avons pas du tout entendu depuis 5 mois. Donc c'était la qualité, au sens du petit Robert, la qualité de cet homme que les gens voulaient juger. Comment est-il au bout de 5 mois? Comment se comporte-t-il avec des journalistes? Comment répond-il? Est-il concret? Est-il pédago? Ou est-ce qu'il assène des arguments d'autorité? Et je pense qu'on n'avait pas prévu de faire 17 minutes, on voulait faire moins. Mais
vous êtes fait un peu bouffer à ce moment-là.
Mais c'est pas grave. Ouais. De ces 17 minutes-là est ressorti quelque chose. Et je pense que les 4 ans et 7 mois qui restent de ce quinquennat seront teintés, colorés par ça. Et donc, dans un pays où tout remonte vers une personne, vers le corps du roi, vers le président de la République, savoir de quoi est fait le roi, je pense que ça intéresse les gens. Voilà, c'est une monarchie républicaine et c'est beaucoup plus... La curiosité est plus grande qu'à propos du moi ou du surmoi de Madame Merkel, qui pourtant dirige un pays de 400 millions d'habitants.
Alors, c'était un retour au palais, puisque François Hollande, c'était une de ses promesses de campagne. Il sortirait pour voir les journalistes au lieu de les faire venir à l'Élysée. Il a même d'ailleurs délocalisé l'interview du 14 juillet à l'hôtel de la Marine, par exemple.
Ça n'a pas duré longtemps, parce que moi j'ai interviewé deux fois... Oui. À l'Élysée.
À l'Élysée. Mais en même temps, il s'est déplacé. Il a été chez M6, Capital. Il est venu sur France Inter. Il a été chez Bourdin. Il a eu rendez-vous avec Salamé et Pujadas sur France 2. Donc là, il y a un vrai côté. On revient au palais. On revient au palais de l'Élysée, au cœur de la République. Et en même temps, le palais, il est très fréquemment mis en scène par Emmanuel Macron. Il y a eu deux séquences de signature de textes de loi. Travail et moralisation de la vie politique face à un mur de caméras très à l'américaine, manifestement pour vous, ancien correspondant aux États-Unis.
C'est le copier-coller du premier décret présidentiel de Barack Obama le 23 janvier 2009. Il est à la Maison-Blanche depuis la veille et devant 25 caméras, il signe l'ordre de fermeture de Guantanamo, qui d'ailleurs, 8 ans après, n'est toujours pas fermé. Et là, j'ai l'impression que les conseillers d'Emmanuel Macron lui ont dit il faut solenniser les ordonnances avec
Est-ce qu'à votre avis, il a même été jusqu'à déplacer le bureau?
Non, c'est l'emplacement du bureau. Non, c'est l'emplacement du bureau.
Soit entre les deux fenêtres, comme
dans
le bureau en voile.
Pas que je sache, de mémoire, le bureau est à cet emplacement-là. Mais voilà, mais c'est totalement... c'est une des manières d'exercer le pouvoir.
Le bureau a bougé. Je
confirme, le bureau a bougé. Non,
mais... Peut-être qu'on a été jusque-là dans le...
Non, mais c'est une manière d'exercer le pouvoir, de dire les ordonnances, voilà, je les signe et je mets en image.
Fait venir dans ce bureau d'angle. Il y a eu beaucoup de plans évidemment déployés par votre réalisateur Tristan Carnet. Il y a un plan qui est revenu absolument sans cesse. Vous étiez filmé depuis le bureau du président, vous étiez autour de sa table de réunion et votre image apparaissait au-delà d'une pile de livres qui était astucieusement disposée sur le bureau. On voyait du Malraux en tête de pile de livres. Ça disait quoi ce plan? Qui l'a choisi? Qui a décidé ce qu'il aurait mis en scène sur ce bureau quand on allait le filmer?
Je pense que Tristan Carnet, avec lequel on a réalisé notamment le grand débat du mois de mars avec les 5 candidats.
Et qui est réalisateur du débat de l'entre-deux-tours également.
Voilà, et qui réalise beaucoup d'autres choses avec un immense talent. Il a dû se dire, voilà, dans cette pièce qui fait 40 mètres carrés, comment on fait pour mettre 8 caméras trois intervieweurs, un président, sans qu'on soit vraiment, on ait le sentiment d'être dans une boîte à chaussures. Mm-hmm. Donc voilà, bah, donc c'est ce qu'on appelle de la réalisation. Donc,
il a de réalisé. La réalisation, ouais. Et là, est-ce qu'on appelle ça de la co-réalisation, de la co-mise en scène avec l'Élysée? C'est-à-dire qu'on va avoir un plan derrière le bureau, qu'est-ce qu'on met en scène sur ce bureau? Chaque objet était choisi, bien entendu.
Vous pouvez mettre une thermos ou un téléphone, mais c'est moins signifiant. Mais souvenez-vous, la photo officielle d'Emmanuel Macron, il y a des livres de la Pléiade, et il y a ça notamment.
Et là, voilà. Donc, et il y a aussi du Malraux.
C'est un rappel freudien.
Merci beaucoup Gilles Boulot. Le grand entretien, c'est le titre de l'interview d'hier soir, est à revoir sur mytf1.fr.